Depuis longtemps, Jean-Daniel me demandait de lui raconter un petit peu mon enfance. C'est assez difficile de faire ça comme ça, toute seule, quand on n'est pas lancé. Je ne sais pas trop par quel bout commencer. Alors il est probable que ce sera très décousu, mais enfin peut-être que ça lui conviendra quand même. Alors d'abord, parlons un peu, de maman. Maman habitait à Laval avec ma grand-mère et étant de santé fragile, il avait fallu dépenser beaucoup d'argent pour la soigner. À l'époque, il n'y avait pas la sécu et ma grand-mère avait été obligée de vendre la maison de famille et elle avait partagé l'argent de la vente avec son frère. Le restant, elle ne savait pas trop quoi en faire. Et comme c'était la guerre de 14-18, que la plupart des hommes étaient au front, elle a eu une idée que je trouve moi un petit peu biscornue, mais enfin, il y avait un café avec quelques chambres à louer qui étaient disponibles, et bien entendu, pas d'hommes pour tenir ce genre de magasin. Alors elle s'est dit, ben, pourquoi pas acheter ça. Alors ils ont donc placé leur argent dans ce petit café. Et mon Dieu, bon, il paraît que les affaires n'allaient pas trop mal. Et c'est là où maman a connu papa, qui, d'après elle, était, enfin, de toute façon, c'est sûr, puisque j'ai une photo le représentant en uniforme, était dans un régiment étranger qui était à Laval. Il était, paraît-il, l'interprète du colonel. Enfin, il parlait un français qui n'était quand même pas sensationnel. Mais enfin, il était d'origine russe. Il s'appelait, d'après lui, Serge Kemalédinov. Mais en réalité, ce n'était pas son vrai nom. Il était, paraît-il, sous une fausse identité. Et d'après ce que maman a cru tout au moins comprendre auprès d'un camarade de mon père, son vrai nom serait, mais ça c'est sous toute condition, je ne sais pas exactement, Serge Imerov. Bon, ils se sont connus. J'ai quelques lettres qui sont assez touchantes au moment où mon père a été obligé de quitter brusquement Laval, car il était, paraît-il, recherché, n'ayant pas, étant sous une fausse identité, il avait peur. Pour quelle raison, ça, je ne le saurais jamais. Ils ont donc vécu un mois de grand amour, et le résultat de ce mois d'amour, ce fut moi. Et inutile de dire que ma naissance, acceptée avec une joie absolument formidable par maman, qui, ça c'est le plus beau cadeau, paraît-il, que mon père ait pu lui faire. La grand-mère, elle n'était pas du tout d'accord. Elle trouvait que c'était absolument déchoir, que c'était une honte qui s'abattait sur la famille, et que ce n'était donc pas possible de rester à Laval, qu'il fallait fuir, qu'il fallait se cacher pour accueillir cet enfant qui devait venir. Alors partir où? Partir le plus loin possible. Alors mon Dieu, Nantes était la grande ville la plus près de Laval. Elles partirent donc à Nantes, mais à Nantes, il n'y avait pas de logement. C'était la crise, là aussi, des logements. Elles ont fini par échouer dans un petit village qui se trouvait à 15 km de Nantes, la Fossoyère. C'est le pays du Muscadet. Et là, elles ont trouvé une petite maison à louer. Et j'y suis née le 26 février 1920. Après une journée de travail de maman, je suis arrivée à 9 h du soir et maman a repris à travailler 2 ou 3 jours après. Je sais que il fallait qu'elle aille rendre son travail à Nantes, puisqu'elle avait trouvé du travail dans une maison de confection de Nantes. Elle était giletière et ma grand-mère était culottière. Alors maman allait toutes les semaines à Nantes, tous les vendredis, chercher les gilets de confection qu'elle faisait Et le vendredi d'après, elle rapportait cela en prenant le train pour aller de la Foissière à Nantes. Or, bon, il a fallu quand même interrompre pendant quelques jours au moment de ma naissance. Ça ne les a pas empêchés de travailler toutes les deux. Et maman, 3 semaines après ma naissance, est partie à Nantes rendre son travail. Mais bien entendu, n'ayant pas travaillé, n'avait pas d'argent pour prendre le train, personne à qui emprunter de l'argent. Il lui a donc fallu faire le chemin à pied de la Foissière à Nantes. Elle a eu son retour de couche pendant ce trajet, mais ayant été payée en livrant son travail, elle a pu bien heureusement revenir par le train. Donc, tout cela pour dire que mes premières années ont été placées sous le signe de pas de sous à la maison. À part un manque d'argent, j'ai été une petite fille très, très, très entourée, très aimée. Et maman attendait toujours le retour de papa. Quand on y réfléchit bien, ça se trouvait un peu un vœu pieux parce qu'elle a bien reçu des lettres, mais elle n'avait pas d'adresse pour lui écrire. Et lui, d'autre part, ne savait donc pas qu'il attendait un enfant. Donc, à savoir s'il y était vraiment attaché, il aurait su qu'il attendait un enfant, peut-être aurait-il fait des pieds et des mains pour la retrouver. Or, ce ne fut pas le cas. Qu'est-il devenu? Ça, nous ne savons pas. Et j'ai bien peur que nous ne le sachions jamais. Jean-Daniel a envie de faire des recherches. Moi, je veux bien qu'il fasse tout ce qu'il voudra. Mais je ne vois pas bien comment on pourra y aboutir. Enfin, j'ai grandi dans ce petit bourg de la Foissière jusqu'à mes 7 ans. Je suis allée à l'école pour la première fois, j'avais 2 ans. La maîtresse avait demandé si j'étais propre. C'était une des conditions pour pouvoir me prendre. Et effectivement, j'étais une petite fille très propre, c'est-à-dire ne faisant pas pipi ni caca dans la culotte. Et le jour de mes 2 ans, maman a donc pu aller me conduire à l'école. C'était une école de village, une école à classe unique avec une maîtresse, Mademoiselle Météroux, qui me faisait un peu peur, qui me grondait parce que je n'arrivais pas à dire mademoiselle et je l'appelais mamiselle, et qui m'a tranquillement installée au milieu d'une table de trois avec une ardoise et un crayon en me disant, écoute, hein, tu restes là bien sage, tu fais des dessins, tu fais des bâtons, et puis tu écoutes. Et voilà, c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Inutile de dire que dans des conditions pareilles, je n'avais qu'une chose à faire, c'était d'écouter ce que disaient les autres. Je savais les récitations comme les grandes et j'ai appris à lire effectivement très vite parce que j'avais vraiment rien d'autre à faire. Je lisais donc couramment à 3 ans et maman m'achetait régulièrement le journal de Lisette. D'après Jean-Daniel, je ne devais pas très bien comprendre ce que je lisais. J'en suis pas si sûre que ça. Mais ça, moi, mes souvenirs personnels sont absolument. J'en ai pas, quoi. Je ne sais pas du tout. Je ne me souviens absolument pas de cette période. Je me souviens d'un événement où j'avais écrit comme un cochon. J'ai toujours assez mal écrit. Et où la maîtresse, n'étant pas contente du tout de moi, m'avait accroché mon cahier au dos, sur mon sarrau, sur mon tablier, et m'avait renvoyé comme ça à la maison. J'étais vexée comme un pou, mais heureusement pour moi, je n'avais pas du tout à traverser le village, puisque l'école des filles, l'école communale des filles, était un peu en dehors du bourg. Bon, enfin, c'est une drôle de façon de faire, qui n'aurait plus lieu maintenant, mais qui, à l'époque, portait peut-être ses fruits, j'en doute fort. Ça n'a pas dû me faire changer beaucoup de façon d'écrire. C'est à peu près tout ce dont je me souviens. Et à 7 ans, j'ai donc quitté. Ah si, je me souviens d'une chose. Je me souviens d'une chose, c'est que je ne savais pas lire l'heure, mais quand maman me demandait quelle heure il était, elle me disait, va dehors voir la pendule du clocher de l'église. Et je lui disais, eh bien, la grande aiguille est sur tel chiffre, la petite est sur tel autre. Voilà. Et puis j'avais droit aussi à un gâteau par semaine, un genre de gâteau sec qu'on appelait une guillarée. Ça ressemblait à ces... C'était pas des brioches, c'était des foisses. C'était la même pâte que les foisses. Moi, j'appelais ça une diarrhée. Et j'ai toujours trouvé ça délicieux. Malheureusement, il paraît que ça ne se fait plus à Nantes. Je regrette, j'en ai toujours une envie folle. Donc voilà, j'ai grandi comme ça jusqu'à 7 ans. Et à 7 ans, maman a réussi à avoir un appartement à Nantes. Alors là, on est venu donc habiter Nantes. Nous habitions rue Fénelon, c'est-à-dire dans le plein centre de Nantes, tout près des grands magasins de Cré. Et nous étions mitoyens de l'école des Beaux-Arts. L'école, tout près de la mairie aussi, la mairie de Nantes. L'école où j'allais s'appelait l'école du port communal. Elle était assez loin de l'école, de la maison, mais enfin, pas tellement. Mais j'avais un itinéraire bien précis à suivre. Et je n'avais absolument pas le droit de passer par une autre rue. Ce qui m'a vexé pendant près de 5 ans, parce que en passant par l'autre rue, j'aurais eu des tas de copines pour revenir de l'école, alors que par le chemin plus direct que maman m'avait choisi, j'étais toute seule. Alors de temps en temps, je trichais, je passais avec les copines, mais maman se méfiait de temps en temps et elle venait m'attendre au coin de la rue, ce qui fait qu'elle voyait bien dans quelle direction j'arrivais. Et gare à moi si je passais par le côté défendu. J'ai jamais compris pourquoi maman attachait une telle importance à ce trajet. J'ai jamais compris non plus pourquoi je n'avais pas le droit d'aller jouer sur le trottoir. Il y avait une petite place tout près où les enfants du quartier allaient jouer sur un très grand trottoir et y jouaient à la marelle. Et moi, je n'avais pas le droit. Ça ne se faisait pas. Une petite fille bien élevée ne va pas jouer dans la rue. Enfin, etc. Ce qui fait que j'ai donc grandi vraiment toute seule. Très, très solitaire, mais heureusement j'avais la lecture, donc je lisais beaucoup, je ne faisais pratiquement que ça. Mes débuts scolaires ont été assez cocasses parce que j'arrivais d'un bled et la directrice, Madame Pouvreau, savait pas trop dans quelle classe me mettre. Alors j'ai passé une demi-journée dans la dernière classe des maternelles, la classe enfantine. Là, évidemment, au bout d'une heure ou deux, ils se sont tout de suite rendus compte que ce n'était pas ma place. Alors, elle m'a mise dans sa classe à elle, qui était le CP, le cours préparatoire. Mais là aussi, ça n'allait pas du tout. J'étais bien au-dessus du niveau des autres, ce qui fait qu'ils ne savaient vraiment pas quoi faire de moi. Alors, à Noël, j'ai changé à nouveau de classe. Je suis allée, en CE1 ou CE2, je ne sais plus trop ce que j'ai fait. J'ai sauté plein de classes. Et je sais qu'une chose, c'est que je me suis retrouvée, à l'âge de 10 ans, en classe de certificat d'études, et à 11 ans, mais même avant, à 9 ans, en classe du certificat d'études, et à 10 ans, en classe supérieure. Là, j'y suis restée donc 2 ans, de 10 à 11 et de 11 à 12. J'ai passé le concours de bourse à l'âge de 10 ans, bourse première série, qui donnait accès à ce moment-là, qui permettait d'avoir une bourse pour aller au lycée. Mais pour moi, il n'était pas question d'aller au lycée, car à l'époque, les classes à partir de la 6e étaient payantes. Et je voulais être institutrice. Donc je voulais faire l'école primaire supérieure de Nantes, mais pour cela, il fallait rentrer à 13 ans. À 12 ans, j'ai pu y rentrer avec une dispense. Donc bien que je suis donc reçue aux bourses première série à 10 ans, mais normalement je ne pouvais pas les toucher puisque je n'étais pas dans un établissement scolaire qui était habilité à avoir des boursiers. Mais Madame Pouvreau, voyant les difficultés financières de maman, s'est débrouillée et je crois que j'ai dû être la seule enfant qui, en 1930, boursière de première série, a touché sa bourse en étant encore dans une école primaire. Le premier trimestre, cette bourse était versée par trimestre. Le premier trimestre, je m'en souviendrai toujours, c'était une bourse de... Je ne sais plus si c'était 1000 francs, enfin je ne sais plus, moi avec les nouveaux francs, je me perds un peu. Mais enfin je sais que c'était de toute façon 300 francs par trimestre, puisque si mes souvenirs sont bons, c'est le prix que j'ai payé mon premier dictionnaire Larousse. Ça a été la première chose que je me suis achetée quand j'ai touché cette bourse à 10 ans. Ça a été pour acheter le dictionnaire Larousse. J'étais toujours la première. J'ai passé le certificat d'études comme tout le monde à 12 ans. Et là, j'ai eu le droit de me faire engueuler le soir des résultats. Je pleurais comme une madeleine et tout le monde essayait de me consoler en me disant « Mais pourquoi pleures-tu? C'est pas grave si tu n'es pas reçu. » Alors je disais en hoquetant « Mais si, je suis reçu, mais je viens de me faire gronder par la directrice. » Parce que je ne suis reçue qu'avec une mention bien. Or, paraît-il, j'aurais dû avoir une mention très bien. Enfin, j'ai eu une mention bien, et en même temps, comme cadeau, j'ai eu un livret de caisse d'épargne, avec, je crois, 10 francs dessus. Livret de caisse d'épargne dont je ne me suis jamais servi après, et que je dois avoir quelque part dans mes papiers. Donc voilà, je suis donc rentrée à l'école primaire supérieure à l'âge de 12 ans. Entre-temps, entre ces 7 ans et ces 10 ans, il fallait bien que j'aille quelque part pendant les vacances. J'étais une gosse maigrelette qui mangeait pas trop à sa faim, mais la directrice de l'école donnait des bons à ma mère pour qu'elle aille chercher mes repas au restaurant municipal qui se trouvait en face de chez moi. Normalement, j'aurais dû aller y manger à ce restaurant, mais c'était l'endroit où tous les clochards de Nantes se réunissaient, c'était pas très marrant. Et les personnes qui tenaient le restaurant avaient dit à maman, écoutez, venez chercher sa portion. Et ils donnaient même une portion un peu large. Comme ça, maman avait en général de quoi manger pour elle et pour ma grand-mère avec ma portion. Et comme ça, je mangeais. Je mangeais à peu près à ma faim quand même. Mais c'était un peu juste. Je ne sortais jamais, j'étais toujours renfermée dans cet appartement qui était au rez-de-chaussée de la rue Fénelon. Je n'ai jamais eu froid. Maman n'avait pas d'argent pour acheter du charbon. Mais comme nous habitions en face du restaurant municipal, il sortait à ce moment-là, les fourneaux étaient au charbon. Et tous les matins, à 6 heures du matin, il sortait les restes, il vidait les creusets et il restait des morceaux de charbon absolument énormes, ce qui fait que maman, tous les matins, à 6h30, avant le passage des poubelles, allait gratter dans le charbon et rapportait à la maison des seaux de charbon qui nous chauffaient largement. Pendant tous les hivers, nous étions même surchauffés. On y est resté, là, dans cette rue Fénelon, jusqu'à ce que j'ai 12 ans. Je suis allée pendant des vacances, mes premières colonies de vacances, je les ai faites à 7 ans. À 7 ans, dans une colonie de vacances au Cormier, sur le bord de la mer, pas très loin de Nantes. Mais j'ai toujours été malheureuse comme les pierres dans une colonie de vacances. Je pleurais tous les soirs. Et il m'est arrivé une aventure tristounette. Par plaisanterie, on m'avait caché ma paire de sandalettes. Impossible de mettre la main sur cette paire de sandalettes. Impossible non plus de mettre la main sur ma paire de chaussures du dimanche. Ce qui fait que je me suis trouvé pendant 8 jours sans chaussures. C'était pas trop grave pour aller de la maison à la chapelle et de la maison à la plage, puisque nous dominions, nous étions sur des rochers au-dessus de la plage. Mais le soir, pour aller se promener un petit peu sur les routes de campagne, ben les pieds d'une petite fille de 7 ans, pour marcher nu-pieds, les petits cailloux de la route, ça me faisait tout de même très mal aux pieds. Et quand je pense qu'aucune monitrice n'a eu l'idée d'aller tout de même m'acheter une paire, ne serait-ce qu'une paire d'espadrilles au bourg voisin. Or, j'avais écrit à maman que je n'avais plus de chaussures, et maman m'avait répondu en disant, écoute, ma cocotte, il faut que tu attendes la fin de la semaine, quand j'aurai touché ma paye, j'irai t'acheter des chaussures et je te les enverrai. Je n'ai d'ailleurs pas fini de lire, de relire à la mort de maman les lettres que je lui écrivais quand j'étais à cette colonie, parce que je pleurais à chaudes larmes, et Lucien me disait, écoute, ça suffit, ça te fait trop de mal, laisse ça tomber. Il est vrai que c'est toujours très dur quand on a 7 ans de recevoir des lettres où la maman vous dit, tu comprends, ma petite fille, une petite fille qui n'a pas de papa, il faut qu'elle soit très raisonnable, elle ne peut pas avoir des sous comme les autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu pratiquement pendant toute ma petite enfance. Après, je suis allée 2 ans en colonie de vacances sur les bords de la Loire, à Mauves. C'était pareil, j'aimais pas ça, je pleurais comme une madeleine. Maman faisait l'effort et le sacrifice de venir me voir tous les 15 jours le dimanche, parce que ce n'était pas très loin par le train. Mais dès qu'arrivait 3 heures de l'après-midi, à l'idée qu'elle allait partir à 6 heures, j'étais malheureuse, enfin ça me gâchait toute ma journée. Après, pendant 2 ans, je suis allée pendant 3 mois de suite, du 1er juillet au 1er octobre, dans une colonie qui était financée par des fonds alimentés par une cotisation des magasins, des grands magasins de Nantes. Et maman travaillait pour un magasin, un tailleur, un très grand magasin, qui payait donc sa cotisation et qui avait droit à envoyer des enfants de ses employés dans cette colonie. C'était merveilleusement bien, c'était impeccable. On était très 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 bien nourris. Il fallait fournir un trousseau. Je me suis toujours demandé pourquoi, étant donné qu'en arrivant, on vous ramassait vos affaires dans un placard et on vous habillait avec des vêtements d'uniforme. Mais il fallait apporter des petites chemises de nuit. Toutes les copines, tout le monde avait des petites chemises de nuit très fines. Moi, j'en avais pas parce que maman n'avait pas de sous pour m'acheter ça et j'avais qu'une chemise de nuit toute neuve, en flanelle, qui avait été faite dans un coupon que Madame Pouvreau, justement la directrice d'école, avait donné à maman. Mais comme il se trouvait que c'était une chemise de nuit d'hiver avec des manches longues, ben j'étais la seule à avoir droit de porter ma chemise de nuit, parce que ce que ne voulaient pas les personnes qui s'occupaient de nous, c'était les petites chemises de nuit légères, car on dormait les fenêtres ouvertes. Autre chose dans cette colonie, les visites étaient interdites. On pouvait voir ses parents seulement au retour de la messe, et le bourg à Trélières était à peu près à 4 km du château où nous étions. Donc je voyais maman une fois de temps en temps, tous les 15 jours, sur ce chemin de retour, et c'était tout. Il lui est même arrivé de venir me voir alors que je venais de subir dans la semaine une piqûre de rappel du vaccin de la diphtérie, et elle ne le savait pas, donc elle était venue pour me voir au retour de la messe. Et ce jour-là, je n'étais pas allée à la messe parce que tous ceux qui avaient été vaccinés dans la semaine devaient rester au repos. Une colonie où nous étions 75 avec une monitrice. Nos noms ne comptaient pas beaucoup, on avait des numéros. C'était le 38. Moi, je me rappelle qu'une année, j'ai eu 38. L'autre, je ne me rappelle plus quel était mon numéro. Et nous avions une interdiction complète de parler, interdiction de parler au réfectoire, interdiction de parler au dortoir. Nous allions au cabinet, nous avions une grande salle de jeu et nous chantions beaucoup. Ça, nous chantions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous avions accolé à cette salle de jeu de grands WC communs. C'était des petits pots de chambre avec chasse d'eau, et on y allait par fournée de 10, par numéro. Ça commençait à 1, puis ça allait jusqu'à 70. Et on attendait que tout ça, tout le monde soit passé. Et en attendant, ben, on chantait. On jouait dehors, on allait se promener, on arrachait aussi les herbes dans le parc pour aider un peu le jardinier. Enfin, c'était pas très désagréable comme vie, mais enfin, moi, j'avais surtout un manque total de lecture, pas un livre, rien, ils n'ont jamais eu idée de proposer de la lecture. Alors moi, j'étais effectivement très malheureuse pendant 3 ans. Pendant 3 mois, pardon. J'y suis donc allée 2 ans. La dernière année, j'ai refusé d'y aller. J'ai dit à maman, je rentre à l'école primaire supérieure. Je ne veux plus retourner dans ces colonies de vacances où je m'ennuie à mourir parce que les filles sont bêtes comme tout. Elles savent rien, c'est pas drôle. Je préfère aller aux garderies de l'école. Et là, je m'étais fait une très bonne copine. Et à 4 heures, on avait droit au goûter, à un petit pain avec un bâton de chocolat meunier et des tasses de coco. Et nous allions passer presque tout l'après-midi dans les douves du château des ducs de Bretagne à Nantes. Il y faisait frais, il y faisait bon. Je faisais un peu mon caïd là-dedans parce que j'étais parmi les plus âgées et surtout parmi celles qui, malgré son âge, rentraient à la rentrée à l'école primaire supérieure. Donc ça faisait très chouette, quoi. Alors j'étais très bien. J'avais à l'époque une jolie petite robe rouge avec des fleurs blanches et un petit chemisier blanc. Je l'aimais tellement que je la lavais moi-même, je la faisais sécher, je la repassais et j'ai mis que ça, je crois, pendant tout le mois où il a fait très chaud. Maman n'avait pas le temps de s'occuper de mes affaires, il fallait donc déjà que je m'en occupe. Je me souviens même qu'à l'âge de 7 ans, il m'est arrivé de repriser des chaussettes et d'être allé chercher après mon journal de la semaine, avec mes chaussettes reprisées aux pieds, très fière de marcher dans la rue, m'imaginant que tout le monde devait voir que mes chaussettes étaient reprisées. Or, le trou ne se voyait pas, donc la reprise ne se voyait pas non plus. Il est vrai que maman ne s'occupait pas trop de moi, ça de ce côté-là, la pauvre, elle faisait ce qu'elle pouvait, elle n'avait pas beaucoup de santé. Elle travaillait tant qu'elle pouvait. La morte saison, nous vivions à crédit. J'avais une honte terrible d'aller acheter à crédit. Quand la bonne saison arrivait, ben, elle payait son crédit. Elle pouvait payer. Et puis l'hiver revenait, on recommençait à nouveau à crédit. On avait droit au bon de pain du bureau de bienfaisance. Enfin, c'était quand même pas très drôle. Et j'étais très orgueilleuse et j'étais très fière, très. J'étais très fière, donc j'étais très ennuyée de cette situation. J'en ai souffert. J'en ai souffert, mais c'est maintenant que je m'en aperçois. Je n'accepte pas qu'on finisse pas les assiettes, qu'on jette du pain, je sais pas. J'ai peut-être trop manqué quand j'étais petite de toutes ces choses-là. Et alors après, vers 12 ans, maman se portait mal dans cet appartement qui ne voyait pas du tout le soleil. Nous étions logés dans des habitations appartenant à la ville de Nantes. Et un jour, à la ville de Nantes, on lui a proposé une place de concierge sur la grande place Bretagne, en plein centre de Nantes. Et c'était une loge, ça, on appellerait ça maintenant un loft, avec une immense fenêtre donnant en plein soleil. Du soleil donc toute la journée. Et maman s'est dit, pour moi, pour la gamine. C'est vraiment l'idéal, tant pis pour mon orgueil, tant pis. Je redescends d'un cran un peu plus encore. Me voilà passé maintenant concierge. Alors moi, ben, ça me plaisait encore moins. Je trouvais ça très bien, l'appartement était très gai, très ensoleillé, c'était sympa comme tout. Mais fille de concierge, ça m'est toujours resté en travers de la gorge. Et je crois que ça ne passera jamais. Donc, on a déménagé là, et puis ben, j'aurais bien d'autres souvenirs encore, mais ça a l'air de rien, mais parler comme ça pendant une demi-heure, c'est assez fatigant, et puis je ne sais pas du tout d'ailleurs si ce que je dis peut intéresser Jean-Daniel, je ne sais pas. J'essaie de voir, pour finir d'ailleurs, j'arrive presque à la fin de la bobine là. Je ne vois pas trop ce que je peux ajouter sur cette enfance qui est donc allée de ma naissance jusqu'à 12 ans. J'ai été baptisée, si, j'ai été baptisée à 7 ans, parce que maman se convertit à la science chrétienne par mon père. C'est dit, là, il ne reviendra plus. Moi, j'étais hospitalisée pour une scarlatine à l'hôpital de Nantes et c'était très mal vu par les bonnes sœurs d'avoir une gamine qui n'était pas baptisée. Alors, maman a cédé et j'ai eu comme parrain le docteur Montfort, qui était un homme charmant, un jeune gynécologue, et comme marraine, une infirmière de l'hôpital de Nantes. C'était très triste d'ailleurs ce séjour. Pendant ma scarlatine, j'ai été isolée pendant 40 jours. J'étais la seule gamine ayant la scarlatine et ils n'ont jamais eu aussi l'idée de me donner un livre. Or, j'avais quand même 7 ans. Je savais lire et j'étais toute la journée dans une pièce toute seule. Et il y a des choses, quand on les dit maintenant, on se dit c'est pas possible qu'on ait pu vivre une période pareille. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé en 1927. Là, bon, ben maintenant, je suis arrivée en 1932 et je crois que je vais m'arrêter parce que c'est vraiment la fin de la bobine. Et je ne vois pas trop ce que je peux ajouter de plus.